I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois un monsieur se fout de moi, monsieur Fédironi.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis.
Salut.
Salut.
Alors c'est Hello. César du coup par rapport aux pronostics.
Bah, écoute, je suis hyper content d'avoir des pronostics aussi justes, franchement, très fier de moi.
Et
écoute, toujours de belles soirées qui sont à la fois.
Non, c'est tout.
On pourrait révéler les résultats de nos pronostics puisqu'on est mardi.
Oui, bien sûr. On fera pas, on va attendre un petit peu encore.
On va pas embêter les gens avec ça.
J'ai quand même une question à ce propos. À quel moment nos auditeurs et nos auditrices vont nous envoyer des messages d'insultes sur cette blague qu'on fait toutes les semaines
c'est
en disant « Ah, on est mardi,
beaucoup.
Le week-end est passé !» Alors qu'on enregistre le jeudi soir,
surtout que nos Josiane l'ont dès le samedi, par ailleurs.
Il faut vraiment arrêter. Il faut ne pas les appeler les Josiane. Parce que
moi, j'aime bien.
C'est un peu comme les Claudettes.
Alors ça, vous pouvez nous...
Voilà.
On fait un magazine avec eux, avec toutes les Josiane.
That's my point.
Vous pouvez nous donner votre avis. Est-ce que vous aimez qu'on vous appelle les Josiane? Est-ce que vous pouvez être nos petites Josiane à nous?
Bon, moi, je vais changer une ampoule.
Ah. Sinon, tiens, Sophie, j'ai une clé pour toi. Oui, c'est un lancement court, excusez-moi.
Ok, c'est bon, je l'ai.
Et oui, c'était un lancement très court pour Millennium Actress de Satoshi Kon, qui est disponible sur Mubi depuis le jour des Césars, puisque c'était vendredi dernier.
Ah, et bravo encore à Justine
23...
Trier, pardon.
C'est le deuxième long métrage après le chef-d'œuvre Perfect Blue. Donc du coup, peut-être avec toi, Arthur, on peut faire un premier tour d'horizon pour nous raconter qui est Satoshi Kon dans le milieu de l'animé japonaise.
Je vais pas être exhaustif parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que je pense qu'on en parlera tout au long de l'émission. Juste, effectivement, Satoshi Kon, c'est un monsieur qui a une carrière très courte, mais très importante. Il a derrière lui quelques BD, quelques mangas, 4 longs métrages, une série animée et quelques courts-métrages. C'est un monsieur qui est né en 1963, qui va être d'abord dessinateur de manga après avoir fait les Beaux-Arts. Faut savoir qu'il est quand même publié pour la première fois à 22 ans, c'est quand même pas rien. Et qui va rencontrer l'homme qu'il vénère le plus au monde assez jeune, à savoir Otomo, le monsieur qui a créé Akira. Et avec qui il va bosser d'ailleurs pour adapter Akira en animé. Et c'est donc comme ça qu'il va mettre un peu la main sur ce qui ne devait pas être son chemin de prédilection, hein, l'animation. Lui, au départ, il voulait être illustrateur et peintre. Et en fait, il va commencer à bosser pour des gens, sur certaines œuvres, sur des commandes. Il a notamment participé à l'adaptation de Ouija Z de Otomo et aussi sur un des 3 segments du film Memories. Je vous raconte un petit peu tout ça parce que je pense qu'il y a des éléments qui vont être importants dans notre analyse de Millennium Actress. Il faut savoir que juste après ça, il va travailler avec un certain Mamoru Oshii. Mamoru Oshii, qui est quand même pas rien, hein, c'est quand même le créateur de Ghost in the Shell. Il va notamment bosser sur un manga qui s'appelle Seraphim, dont il va faire qu'un seul tome parce que la collaboration entre les deux s'est très mal passée. Oshii le raconte de manière assez claire et précise. Satoshi Kon était un monsieur très particulier, très, on peut dire, chiant, qui supportait mal qu'on lui donne des ordres, qui avait, en tout cas, surtout à l'époque, très envie de raconter ses propres histoires. Et c'est important d'avoir ce contexte-là pour comprendre Millennium Actress. Après avoir fait tout ça, donc il va pouvoir avoir fait son premier long en 1998 avec pas beaucoup d'argent. Perfect Blue, qui est donc un chef-d'œuvre, comme moi je considère toute l'œuvre de Satoshi Kon, qui est l'histoire d'une idol, donc une femme qui est dans un groupe de J-pop, de groupe de pop des années 80 à 90, qui va se faire stalker jusqu'à la folie par un fan qui ne supporte pas qu'elle puisse à un moment vouloir sortir de ce rôle-là. Et bref, c'est un thriller très sombre, très noir, qui va inspirer beaucoup de gens, notamment Aronofsky, qui va carrément copier des plans, hein, même si y a des bails, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui va pas faire beaucoup de bruit au Japon, mais qui va en faire à l'international. Il faut savoir que chez nous, il est sorti, notamment parce qu'on a un certain Christophe Gans, qui était fan de son travail et qui a milité pour qu'on le découvre dans nos salles. Et dès Perfect Blue, on décèle un véritable amour du cinéma chez Satoshi Kon. Il y a des inspirations qui sont très claires à du Hitchcock, à du Argento, même à du Lynch. Et c'est une animation très adulte japonaise qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Il va donc par la suite faire le film dont on va parler ce soir, hein, Millennium Actress, qui est pour moi son chef-d'œuvre, qui est un peu le miroir positif de ce qu'est Perfect Blue. Juste pour vous donner quelques billes qui sont importants à avoir en tête pour le débat qui va suivre. Après ça, il fera assez peu de d'œuvres parce qu'en fait, il mourra en 2010 d'un cancer assez foudroyant alors qu'il planchait sur ce qu'allait être son cinquième long métrage. Après Millennium Actress, il a fait Tokyo Godfathers, ce qui est peut-être le moins apprécié chez les fans de Satoshi Kon, alors que je trouve que c'est certes son plus simple entre guillemets, mais pas loin d'être son plus beau. Il fera une série animée qui est très peu connue, qui est disponible sur Prime Video si ça vous intéresse, 13 épisodes, un truc très dense que j'ai pas encore eu le temps de regarder en entier, qui s'appelle Paranoia Agent, avant de faire ce qui sera son film le plus culte, le plus connu, plagié par un certain Christopher Nolan dans Inception,
ben oui.
Paprika, sorti en 2006. Des films qui racontent beaucoup de qui était Satoshi Kon, parce que Satoshi Kon parlait toujours de lui dans ses personnages, hein, notamment dans Millennium Actress, on en reparlera. C'est un film que moi je considère immense, pour un cinéaste qui était immense, même si visiblement c'était pas un monsieur très recommandable.
Et alors, si on en vient à Millennium Actress, qui peut nous raconter en quelques mots, nous résumer, parce que c'est un film difficilement résumable, qui, comme dans Perfect Blue, mélange la fiction, la réalité, avec une interprétation des différents niveaux, Sophie?
C'est l'histoire d'une actrice avant toute chose, comme le dit le titre, de Shiyoko, qui a été une icône du cinéma un peu avant ses 20 ans, jusqu'à, un peu passé 40 ans.
Mmh. Et, grosso modo.
Et en fait, elle est interviewée, en tout cas, elle donne très, 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 très peu de son temps. Elle s'est retirée complètement du milieu du cinéma pour vivre dans une toute petite maison à dos de colline. Et il y a son plus grand fan qui décide de réaliser un documentaire sur elle. Et elle, très touchée que ce gars arrive avec un cadeau pour elle qui est une clé, c'est relativement le début, qui est quelque chose qui est très important pour elle. Et en fait, elle va commencer à raconter l'intégralité de sa vie. Sauf que le caméraman et le réalisateur vont rentrer dans ses souvenirs, intervenir dans les souvenirs qui se mélangent au film, qui se mélangent au fantasme du réalisateur. Et donc, ça donne une espèce de triple narration le temps de cette interview. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Comme ça, vous pouvez dire si j'ai compris le film ou si je suis nul.
non, pour moi, tu l'as compris. C'est peut-être le premier truc que je retiendrai de Millennium Actress, c'est que tu sens que dans ce film-là, comme dans Perfect Blue, et je précise que j'ai pas eu l'occasion encore de découvrir Tokyo Godfathers et Paprika, mais en fait, Satoshi Kon considère que le temps et l'espace ne sont pas des limites infranchissables, puisqu'on est dans l'animation, et que donc on peut se permettre de représenter des choses qu'on ne pourrait pas représenter avec autant de fluidité, autant de naturel, et autant de réalisme, entre guillemets, avec des images réelles, parce que forcément il y aurait une confrontation entre les images qu'on a véritablement filmées et celles qu'on a fabriquées, parce que on pourrait pas le faire autrement qu'avec des effets spéciaux. Et là, comme on est dans l'animation, et que le spectateur, dès le départ, a accepté de considérer comme réel, entre guillemets, une image complètement factice et dessinée à la main, on peut se permettre justement de voyager dans les temporalités, voyager dans les espaces en un claquement de doigts. Et c'est la dimension la plus vertigineuse du film. Et c'était déjà le cas dans Perfect Blue, si ma mémoire est bonne.
C'est ça. C'est-à-dire que chez lui et dans son cinéma Arthur, le réel, le fantasme, le réel et le virtuel et l'imaginaire ne cessent de s'interpénétrer. C'est son producteur qui dit, let's make a movie that looks like a trompe-l'œil.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, il avait dit qu'il voulait un film dont l'angle l'angle change en fonction de quand on se déplace. Vous voyez ce genre de trompe-l'œil là. Il faut savoir que Satoshi Kon expliquait, et son producteur de l'époque, si je ne me trompe pas, Taro Maki, expliquait, en tout cas, et ça, c'est surtout visible sur les deux premiers longs, Paprika aussi, mais voilà, que le film préféré de Satoshi Kon était, enfin, un des films préférés de Satoshi Kon était Abattoir 5 de George Roy Hill, Palme d'Or de 72, qui est un film, quand on prend le récit, d'assez linéaire, mais dont la chronologie et le montage est très diffus. Et c'est un peu ce que cherche à faire Satoshi Kon, pas juste sur la manière d'entremêler les histoires, mais aussi sur cette notion de on peut raconter les histoires et les imploser et les exploser comme on veut. Le simple fait que l'interviewé soit dans les flashbacks ou soit dans les films, et même à un moment qu'on retrouve l'interviewé jeune, parce qu'à un moment on comprend que c'est un homme qui a rencontré cette actrice dans le passé, est une manière de brouiller toutes les pistes de ce qu'on comprend, de ce qu'on voit, de ce qu'on... n'essaye de saisir. Le summum de ça sera bien évidemment Paprika, avec cette machine pour entrer dans les rêves, le rêve qui se mélange avec la réalité et qui donnera donc après Inception. Il faut savoir que c'est quelque chose qui nourrit Satoshi Kon en fait tout du long de sa carrière, même à part Tokyo Godfathers et encore, puisque Parrainage Argent est aussi très très là-dedans. Je laisse un peu la parole à Simon qui n'a pas encore parlé dessus, mais oui, effectivement, c'est vraiment un des plus grands aspects de quand on traite l'œuvre de Satoshi Kon, c'est la notion de rêve, de réalité, de comment tout ça se mélange.
Simon, donc.
Bon, on va pas y aller par quatre chemins, parce que peut-être que celles et ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas connaisseurs ou qui verraient pas trop ce que c'est que l'œuvre de Satoshi Kon se disent, mais est-ce que j'ai bien envie de regarder un film d'animation sur la biographie d'une comédienne qui n'existe pas véritablement? Enfin, voilà, qu'aller chercher dans cette œuvre? Bon, bah, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Point barre. On va poser ça. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, il y a donc toute cette assez fascinante orchestration de différents niveaux de réalité, mais il y a aussi concrètement ce dont nous parle le film. Sans être un film théorique, c'est un film qui va nous parler de cinéma. C'est quoi le cinéma? C'est quoi notre rapport au cinéma? C'est quoi notre rapport au fait de raconter et se raconter des histoires? Et puis, ça va être aussi un film qui va parler de deux très grands thèmes qui ont été traités moult fois dans l'histoire des arts, mais qui là sont abordés, je trouve, d'une manière absolument bouleversante. C'est tout bêtement, ou plutôt de manière évidente, l'amour et la mort. L'amour que ce documentariste porté à cette comédienne, l'amour qu'elle a porté à cet art, le cinéma, qui a été toute sa vie, et puis ce moment où, au fur et à mesure, en revisitant son passé, elle va apprendre, comprendre quel est le sens de son existence, où elle va la mener, et vers quelle fin de vie, vers quelle mort elle se dirige. C'est absolument bouleversant. C'est, alors que on pourrait voir ça comme un truc un peu triste, une espèce d'introspection un peu torturée, c'est une espèce, me semble-t-il, hein, d'ode à vivre son existence, à la penser, à la vivre très fort, je trouve assez folle. Et ce que je voudrais dire, qui moi me semble en plus complètement dément, Satoshi Kon accomplit un truc qui, aussi bien en termes d'écriture que de découpage, enfin, me paraît un truc fou. C'est un film qui va nous permettre d'épouser complètement le point de vue d'un personnage, alors que pourtant, si on regarde en termes de durée dans le film, combien de temps et combien de fois on est en dehors de son cerveau, en dehors de sa sensibilité, je veux dire, on va réussir à comprendre un personnage en étant extérieur à lui, parce qu'on va avoir le regard que porte ce documentariste, la manière dont on se recrée des souvenirs réinterprétés. On est finalement très rarement dans son propre point de vue à elle, et pourtant le film n'est que ce geste incroyable d'essayer de nous révéler ses secrets, sa psyché. C'est vraiment un tour de force d'écriture et de finesse qui moi me sidère totalement.
Je vais dire que j'étais très surprise que tu dises odd. Voilà. je suis désolée.
Ça fait 5 minutes qu'elle fait des grands signes. Je pensais qu'elle voulait vraiment dire quelque chose.
Parce que je suis né à Clermont et donc j'habitais à côté de la place de Jod.
Non, désolé, c'est juste que ça va. Voilà, c'est tout. Accent shaming.
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Satoshi Kon, il parle de lui dans ses œuvres. Quand on regarde Perfect Blue, quand on voit cette jeune artiste qui essaye de survivre malgré la violence dans son milieu, bah en fait, c'est Satoshi Kon qui parle de lui comme il a vécu l'époque où le milieu du manga a été vécu comme une violence pour lui. C'est clairement Satoshi Kon qui s'imagine en Shioko, puisque Shioko, au-delà de retracer son parcours et de réfléchir au choix de vie qu'elle a fait, c'est surtout l'histoire de quelqu'un qui court à travers un but précis et dont au final on se rend compte que le plus important c'était pas d'atteindre ce but mais la course en elle-même. Et c'est un peu Satoshi Kon, lui, un peu ce qu'il a toujours animé, c'est en tout cas ce que ses proches disaient, c'est qu'il a toujours cherché à faire le film parfait.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Il n'a jamais pu le faire puisqu'il a été arrêté en pleine course. Mais c'est vraiment ce qu'il visait. Et il se voit en Shiyoko. C'est pas anodin que... Il faut savoir que dans ces quatre longs métrages, Millennium Actress est le seul qui n'est pas l'adaptation d'un bouquin. Et qui est le seul dont il a vraiment écrit l'intégralité du scénario et de l'histoire. C'est vraiment le film qui parle de plus de lui. Et en plus, c'est le film qui est, je pense, la plus grande déclaration d'amour qu'a fait Satoshi Kon au cinéma. Parce qu'il y a des références à tous les plans et à tous les niveaux, à 2001 Odyssée de l'espace, mais surtout beaucoup au cinéma japonais, beaucoup à Kurosawa avec le château de l'araignée notamment, beaucoup à, mais même des passages où on voit Godzilla, il y a des scènes, si on regarde, je pense que sur YouTube vous pouvez trouver, moi j'en avais vu des passages, mais vraiment des scènes par scène, on voit vraiment un chauffeur d'un bus, hop, bah ça c'est la scène de Tampopo, il y a une scène qui est censée être représentée en Casablanca, bah en fait, non, c'est basé sur Quel est ton nom de Hideo Oba, enfin bref, il y a des moments, c'est Saitoshi, c'est un film qui est extrêmement riche, qui parle de l'histoire du Japon tout en parlant de l'histoire du cinéma japonais et qui parle en fait au fond de l'histoire d'un homme qui essaye d'aller au bout de sa poursuite, d'une actrice qui essaye d'aller au bout de ce qu'elle cherche. Enfin, moi je trouve ça vraiment, moi c'est un de mes films préférés aussi tous les temps, je rejoins Simon là-dessus, je suis désolé, je parle un peu beaucoup mais c'est...
Bah, on t'en prie.
Non mais en plus c'est même plus qu'un film sur le cinéma, même si évidemment c'est un film qui parle de cinéma, c'est surtout quelque part je trouve plus là où le film m'attrape le plus et m'intéresse le plus, et j'en viendrai après coup à une réserve que j'ai quand même malgré tout sur le film de Satoshi Kon, et qui est une réserve intéressante, mais là où le film m'attrape le plus, c'est que c'est un film qui profite de son médium, comme je le disais, pour s'affranchir du temps et de l'espace. Mais pourquoi le fait-il? Parce que ça lui permet de mettre sur un même plan de représentation les images du réel, du temps présent, c'est-à-dire de ces deux personnages qui vont chez cette vieille actrice, qui va leur raconter ses souvenirs de vie, sa carrière, et revenir sur son existence avec eux, et les images mentales qui vont naître dans l'esprit de ces deux gars-là, suite au récit qu'on leur fait. Et c'est pour ça qu'on se raconte des histoires. C'est parce que ça nous crée des images dans la tête. Sauf que d'ordinaire, ces images, elles restent dans la tête. Elles restent abstraites. Nous, on peut en avoir une représentation précise, mais elles se matérialisent pas. Et grâce au cinéma animé, on peut nous raconter une histoire, somme toute, assez classique. On va voir une figure de vieille sage, en l'occurrence, qui est donc Shiyoko, cette actrice qui a vécu énormément de tournages, qui a vécu énormément de films, et c'est un réalisateur fan qui vient la voir parce que il veut apprendre de sa vie, apprendre de sa carrière. Donc on est dans une logique de transmission, sauf que cette transmission qui est de facto strictement orale, elle devient visuelle par le prisme du cinéma d'animation, et c'est là où le film attrape le plus. Après, petite réserve personnelle, et c'est une réserve que j'ai aussi un peu moins quand même avec Perfect Blue, c'est que du coup on est face à un film qui certes est très vivant et bourré d'idées et de références et d'images qui sont absolument fascinantes à regarder, mais je trouve que d'un simple point de vue d'émotion, le vertige vers lequel le film semble m'amener est toujours un petit peu compensé par le fait que c'est quand même une grosse réflexion théorique. C'est un gros morceau de théorie. Moi, ça me plaît, la théorie et les films théoriques, j'ai toujours aimé ça. Ça me plaît, les films qui m'amènent à réfléchir au médium auquel je me confronte, en l'occurrence au cinéma et à la narration. Ça me plaît beaucoup. Mais d'un point de vue émotionnel, ça peut aussi parfois limiter un tout petit peu l'implication. Et je pense que c'est un film qui a peut-être besoin de 2 ou 3 visionnages pour devenir une œuvre émotionnellement puissante, parce que moi, il se trouve que je n'ai eu le temps de le voir qu'une seule fois avant cette émission.
Bouh.
Et c'était une fois, pour le coup, très théorique et très intellectuel, ce qui me paraissait un peu en contradiction avec ce vers quoi le film semblait courir.
Peut-être qu'on peut aussi redire un mot du contexte cinématographique, et notamment au Japon, dans lequel il sort. On est au tout début des années 2000, et on est le moment où, c'est paradoxalement, et c'est aussi intéressant de le noter, le dernier film de Satoshi Kon fait en celluloïde.
Ouais.
Puisqu'il passera à l'animation numérique à partir de Paprika. On est sur une période charnière de l'animation japonaise, Arthur.
C'est un moment où l'animation est bouleversée. Et, par exemple, moi, il y a un truc qui me transcende en termes de pure animation dans le film, c'est la manière dont Shiyoko court. la manière dont ils représentent la course. Ben, faut savoir, pour avoir vu des images du making-of, qu'ils ont fait quelque chose que on a refait par la suite, mais du coup, différemment, parce qu'après, c'était juste de la retranscription. C'est qu'ils ont, il a demandé à une amie de courir, et il s'est mis dans un caddie à côté. Il a filmé avec une vieille caméra DV dégueulasse pour essayer de retransmettre ça. Mais ça, quand on le fait dans les années 2000, on utilise les outils numériques pour le faire beaucoup plus facilement. La retransposition d'images réelles qu'on calque avec des logiciels, etc. C'est l'un des derniers films qui va essayer de le faire un peu plus à la main. Alors, on va pas se mentir, hein, on utilise déjà les outils numériques depuis déjà les années 90, mais il y a encore ce travail un peu manuel, et c'est un moment d'autant plus charnière, tu l'as dit, qu'il faut savoir que Millennium Actress avait en fait tout pour devenir le film culte de Satoshi Kon, qu'il n'est malheureusement pas devenu, parce qu'il sort en même temps qu'un certain Voyage de Chihiro, qui va lui voler la vedette. C'est pas anodin, hein, parce que faut savoir que Satoshi Kon, surtout avec Millennium Actress plus que Perfect Blue qui coûtait pas très cher, était réputé dans le milieu pour avoir des films qui coûtent très cher et qui rapportaient pas beaucoup. Et d'un seul coup, on a Le Voyage de Chihiro qui va être le film, peut-être plus encore que Mononoke, des studios Ghibli.
Et à raison.
Et à raison, qui va s'exporter à l'international et qui va être rentable et qui va amener de l'argent.
Et c'est un peu. Aux Oscars.
Et c'est tout le spectre que Satoshi Kon n'aura pas, sauf avec Paprika, puisque Paprika, faut quand même le mentionner, est nommé en compétition officielle à la Mostra en 2006. Des films d'animation japonais en compétition à l'international, c'est extrêmement rare. Est-ce que le film sera rentable économiquement ? Non. Mais voilà, il est à cette charnière-là de un moment où la technologie évolue et un moment où il y a un certain Miyazaki qui prend le relais pour être le porte-drapeau, l'étendard de l'animation japonaise à l'international, ce que Satoshi Kon ne sera jamais.
Simon.
Ce qui me frappe aussi avec Satoshi Kon, que ce soit ici dans Millennium Actress, mais également dans Perfect Blue, évidemment dans Paprika, moins, nettement moins dans Tokyo Godfathers, c'est qu'il fait peut-être partie de ces très nombreux cinéastes qui ont adapté, sans l'adapter ou sans le dire, Philippe K. Dick. Vraiment, ouais. Je trouve qu'il porte ça à un niveau d'incandescence assez passionnant. Non pas que ses projets soient particulièrement ou toujours science-fictionnels, mais il travaille toujours néanmoins notre perception de la réalité, comment elle se délite au contact de la fiction, du rêve, du fantasme, et comment de ce magma d'images et de sens qui devrait se contredire, bah, naît au contraire un sentiment de compréhension, de dévoilement de la réalité qui n'a quasiment aucun équivalent ni dans l'histoire du cinéma pour Kon, ni dans l'histoire de la littérature pour K. Dick. Et véritablement, moi j'en parlerai je pense dans un épisode spécial d'après une histoire fausse, une des particularités de Philippe K. Dick, c'est qu'il y a bien sûr, il existe beaucoup d'adaptations directes de ses œuvres, mais il existe aussi plein d'adaptations secrètes. Et pour moi, Satoshi Kon fait partie des grands transmetteurs de Philippe K. Dick et de ses vertiges.
Mais ce qui est intéressant avec Philippe K. Dick, c'est qu'il a été réputé pour plusieurs de ses œuvres en tout cas, comme étant inadaptables au cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est que Paprika, pour le coup, qui va adapter, qui est un livre de Yasutaka Tsutsui, est réputé comme étant absolument inadaptable. Il y a un peu ce côté, moi je pense que c'est une des grandes forces de l'animation, c'est qu'avec l'animation, tu peux raconter ce que tu veux.
Alors oui, je suis d'accord, même si je te dirais, pour le coup, ça me semble démontrer surtout que quand on dit inadaptable, ça veut dire bah, y a intérêt à avoir une idée de mise en scène. Parce qu'effectivement, c'est très compliqué à écrire, ou l'écriture cinématographique seule ne permet pas de transmettre le sens. Il faut en passer toujours par un concept de mise en scène, de découpage, de montage, qu'on soit en animation ou en prise de vue réelle.
J'ai un petit fun fact pour conclure. Vas-y. Peut-être. La musique de Millennium Actress, j'ai toujours trouvé très belle, mais quand on la compare à celle de Perfect Blue, qui est quand même un peu plus traditionnel entre guillemets. Il faut savoir que la musique est signée à un certain Susumu Hirasawa, que vous connaissez peut-être pas, mais qui est pourtant une légende au Japon, qui est vraiment le Jean-Michel Jarre japonais, un pionnier de la musique électronique. Et c'est pas un petit détail, c'est pas un petit fun fact que je vous donne. Il faut savoir que Satoshi Kon était archi fan, vraiment archi fan d'Hirasawa, et qu'il écrivait ses scénarios en écoutant ses CD. Et du coup, c'est toujours assez joli quand il y a des rencontres qui se font comme ça, parce que je trouve que la fusion entre la musique et l'image, entre les partitions et le scénario, est un vrai travail d'équipe. Et c'est d'autant plus beau qu'en fait Hirasawa bossera avec Satoshi Kon jusqu'à la fin de sa carrière, et qu'on n'en parle pas assez de la musique chez Satoshi Kon, alors qu'elle a une place primordiale.
Une bonne raison, rapidement, très courte chacun, de découvrir Millennium Actress, et ensuite on passera plus largement à la filmo de Satoshi Kon. Alexis?
Moi, j'irais vers la narration multispatiale, multitemporelle, parce que je crois que j'ai rarement vu un film qui l'emploie à ce degré-là de fluidité et de vertige, vraiment. Donc, moi, j'irais là-dessus.
Simon.
Parce que les années passant et l'expérience de spectateur aidant, il devient de plus en plus rare de voir un film dont on se dit qu'il ne ressemble à aucun autre. Et c'est peut-être le cas de Millennium Actress, qui ne ressemble qu'au cinéma de Satoshi Kon.
Arthur ?
Parce que c'est le film le plus intime de son auteur et que si vous connaissez Satoshi Kon, ça vous parlera et que si vous ne le connaissez pas, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée au final.
Millennium Actress de Satoshi Kon qui est disponible sur la plateforme Mubi depuis le 23 février. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt
Oudingo ?
Oui, si, c'est bien.
Voilà, j'ai demandé de l'aide parce que je n'avais pas d'idée. Voilà, voilà ce qu'on propose.
Ah, je ne vais pas laisser le blanc, non. Mais ouais. Les gens qui nous écoutent, sachez que le blanc était beaucoup plus long dans la vraie vie.
Il était interminable. Et puisque nous sommes dans Satoshi Kon jusqu'au cou, Arthur, tu nous fais une petite filmo intégrale.
En fait, je voulais que ce soit un peu une discussion pour ceux qui en ont parlé ou pas, parce que là, j'ai beaucoup parlé de Perfect Blue tout à l'heure. On a un peu parlé de Paprika qui est cité, mais en fait, il faut savoir que un des films les moins nommé, expliqué et travaillé de l'œuvre de Satoshi Kon, c'est Tokyo Godfathers. J'aimerais revenir dessus, je sais que c'est pas forcément celui que préfèrent les gens autour de cette table. Tokyo Godfathers, c'est le film qu'il fera après le semi-échec de Millennium Actress et même au moment où il commence à réfléchir à faire une série animée plus longue, plus ambitieuse, où il sera plus dans le partage, lui qui a été très dans le renfermement. Ça passe par plusieurs choses. Déjà, quand vous regardez le dessin de Perfect Blue et de Millennium Actress, il a un dessin qui est un petit peu rond. C'est les traces de son passé de mangaka. Quand on passe sur Tokyo Godfathers, les traits sont beaucoup plus droits, beaucoup plus rigides, beaucoup plus difficiles. Et ce sera encore plus manifesté dans Paprika. Tokyo Godfathers est pour moi une réussite absolument totale. Il est certes moins grandiose dans la manière de mélanger le rêve et la réalité. Il est beaucoup plus terre à terre. Si vous connaissez pas, c'est l'histoire de trois SDF qui vont trouver dans une poubelle un bébé et un soir de Noël et qui vont décider de
le manger.
Ou presque. De l'adopter, c'est un vrai conte de Noël, c'est un vrai film de Noël, mais avec des petits moments de folie, avec un passage dans un club, un des trois SDF est un drag queen, il y a des très beaux moments, et surtout, il y a un travail sur l'image qui est dingue, un vrai travail qui a été fait pour montrer un Tokyo qui n'était jamais vraiment montré à l'image, que ce soit en live action ou en animation. C'est le moment où Satoshi Kon comprend qu'à force de vouloir ne parler que lui de ses propres œuvres, il se renferme dans un truc qui ne fonctionne pas, donc il va laisser la place aux animateurs de mettre leurs propres pattes. Ça se voit notamment dans le travail des décors qui est incroyablement riche. Et en même temps, c'est peut-être l'un de ses films les plus cohérents. Je voulais revenir un petit peu sur ça parce que Perfect Blue est quand même maintenant a eu un petit statut de film culte, je dirais.
Ouais, et puis surtout depuis la ressortie en version restaurée et tout.
Bah, c'est ça, qui est magnifique par ailleurs. Et puis Paprika est très commenté. Très commenté. À raison. Moi, je considère que c'est pas son meilleur, contrairement à ce que on le ressort le plus. Mais voilà. Je voulais revenir un petit peu sur Godfather et revenir un peu sur qu'on discute un peu sur ce qui revient le plus chez vous.
Simon, qu'est-ce qui revient le plus chez toi ?
C'est vrai que ma question était pas folle.
Ouais, mais c'est un métier, t'inquiète.
Le retour du refoulé. Ah, ce qui revient le plus chez moi.
Ah, non, c'est ça qui refoule.
Eh oui.
Ouais, du coup, ça explique tout.
Blablabla. Bah, que dire, je vais un peu me répéter, me paraphraser, mais moi, j'ai l'impression que Satoshi Kon invente quasiment un médium avec ses films à lui. C'est-à-dire que non seulement il y a à peu près aucun autre auteur, mangaka, metteur en scène, cinéaste dans l'animation ou dans le cinéma live, qui va utiliser avec un tel niveau de précision, de complexité, d'intelligence émotionnelle, tous les principes de mise en scène qu'il déploie. Ouais. Son œuvre me paraît tout à fait unique. On a beau se dire oui, on est à mi-chemin entre le drame, l'introspection, la fable psychanalytique, voire la science-fiction. C'est bien beau de dire ça, mais bah, ça donne quelque chose, encore une fois, de parfaitement unique et qui vient nous apporter, nous délivrer son message, ses messages, d'une manière qui est tout à fait incomparable. Enfin, véritablement, moi, quand je reviens sur Satoshi Kon, je vois pas à quoi le comparer. C'est ça qui est magnifique, qui est très impressionnant dans cette œuvre-là. C'est qu'elle est, c'est à la fois une cathédrale et en même temps, on n'est pas foutu de lui trouver de descendants, de lui trouver d'ancêtres. Enfin, j'exagère encore un petit peu, hein, mais vraiment, quoi. C'est un pan unique de l'histoire du cinéma qu'il faut vraiment découvrir. Et attention, malgré tout ce qu'on a pu dire, tous les superlatifs qui sont sortis de nos bouches, on parle de longs métrages qui sont particulièrement accessibles. Perfect Blue, c'est un gros thriller des familles.
Alors, je suis d'accord avec toi, et en même temps,
non, moi, je trouve pas ça du tout accessible.
C'est ce que j'allais dire.
Non, mais je l'ai vu à 12 ans, j'ai tout compris, j'étais scolé à mon.
Non, Millennium Actress et Paprika ne sont pas faciles d'accès.
Non, Paprika, c'est pas facile d'accès. Je vous l'accorde. Mais Millennium Actress, tu comprends ce qui se passe,
Moi, je trouve Millennium Actress globalement plus facile à saisir dans les grandes lignes que Perfect Blue.
Ah ouais ?
Ah ouais, je suis d'accord aussi.
Ouais, parce que Perfect Blue, justement, le film te tient, surtout quand tu le regardes avec un point de vue occidental, on est habitué aux thrillers occidentaux qui sont quand même souvent globalement assez limpides. Et moi, je me souviens l'avoir découvert en salle lors de la ressortie et je suis très vite alpagué par le film. Mais il y a plein de moments où je... Wow,
Oh, ça, putain, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, ou à ce que ça soit filmé, ouais, ou raconté de cette manière. Parce qu'il y a toujours une espèce de recherche de l'originalité, du point de vue un peu détourné, de la petite touche de fantasy qui va un peu changer les choses chez Satoshi Kon. Et moi, ouais, Perfect Blue, j'ai vite fait compris où on allait, parce qu'en plus, je savais déjà, avant de le voir, que le film s'était fait honteusement pomper par Darren Aronofsky. De fait, c'est le cas. Amusez-vous à regarder Requiem for a Dream et Perfect Blue à la suite. Vous allez voir, c'est pas triste. Mais pour le coup, ouais, je qualifierais pas ça d'accessible. Par contre, je trouve pas que le côté indigeste ou complexe, quand je dis indigeste, c'est parce que c'est des films très denses, hein, c'est pas parce qu'ils sont ratés, hein, attention. Le côté justement très dense et parfois un peu complexe et vertigineux du cinéma de Satoshi Kon, moi, me donne pas envie de rester en dehors et me donne envie d'y retourner.
Mais voilà, non, mais c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire
donc
que
c'est là où malgré
c'est complexe si tu veux l'analyser. C'est complexe si tu veux l'analyser, tu veux dire, alors attends, il y a combien de niveaux de réalité, et si je devais décrire exactement ce qui s'est passé dans le film, qu'est-ce qu'il y a là? Tu es face à un labyrinthe, donc c'est très complexe. Mais néanmoins, l'œuvre que tu regardes, tu comprends bien où sont tes enjeux émotionnels, et tu te dis, et justement, tu vois, quand tu dis, oh là là, j'ai été surpris par ça, c'est donc bien que tu comprends ou tu te fais une certaine idée de ce qui t'a raconté.
Bien sûr, bien sûr.
C'est des films qui sont très immersifs, très excitants, très stimulants. C'est un peu, si tu veux, comme Nolan, mais qui aurait aucun problème gastro-entérologique, quoi. Oh.
Faut savoir que ces quatre longs à Satoshi Kon durent 1h20, 1h30. Ils sont tous courts.
Ouais, c'est très bref.
Et du coup, ils sont tous très denses parce qu'il y a des histoires qui sont très chargées, qui racontent en très peu de temps. Si ça vous intéresse, sachez que dans le documentaire sorti en 2021, je crois, Satoshi Kon l'illusionniste, on voit des extraits de ce qui aurait pu être son cinquième long sur lequel il travaillait quand il est mort à 46 ans. Dreaming Machine, qui devait être un long plus accessible, plus porté enfant, et en même temps avec une vision forcément où le rêve et la réalité se mélangent, avec une intrigue un peu plus complexe, qui parle encore une fois de Kon, qui va s'adresser plus aux adultes. C'est la beauté de tout son art, c'est que il y a toujours un point d'accroche. Tokyo Godfathers, c'est le plus facile de tous. Mais même à Paprika, il y a toujours un moment où on est attrapé par une scène, une séquence. Oui, il y a une fanfare avec des grenouilles. Mais, et oui, il y a une scène où elle va casser une vitre qui est en fait un truc qu'on ne voit pas, qui est juste le décor. Parce que oui, quand ça arrive dans Inception, c'est vraiment du copier-coller. Mais il y a toujours un moment où tu t'accroches. Satoshi Kon, c'est toujours, il y a toujours un truc qui t'attrape, qui te rappelle quelque chose de ce que toi tu as vécu, de ce que toi tu ressens. Enfin, moi, c'est pas loin d'être un de mes réalisateurs préférés, je crois.
Et vous, quel est votre Satoshi Kon préféré? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires sur les différentes plateformes d'écoute. Vous pouvez nous le dire également sur nos réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram ou sur X. Ex-Twitter, je m'y fais toujours pas, j'ai toujours l'impression que ça va dire qu'il y a Dorcel quelque part qui va sortir du... Ah bref.
Ça, c'est Elon Musk.
Ah, oh. Le Musk et la Palme. Oh. Voilà les amis, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Dès mercredi pour nos Josiane d'amour, et d'ailleurs je pense qu'il faut prévenir les auditrices et les auditeurs, la prochaine fois qu'on fait un enregistrement public, je veux voir des t-shirts Josiane c'est moi, ou je suis Josiane 45 ans, un truc comme ça, vous voyez, non?
Si jamais vous connaissez une Josiane, il faut la porter, il faut la ramener.
Soyez inventifs. Et donc pour nos Josiane de mercredi, à quoi auront-elles droit, Alexis?
Eh ben, elles auront droit au nouvel épisode de Mise au Point consacré à une séquence qui m'avait beaucoup marqué dans Zodiac de David Fincher. Une séquence qui constitue, à mes yeux, la clé de lecture pour comprendre non seulement un bout du cinéma de Fincher, mais surtout, de quoi parle ce film et quel est le point de vue de Fincher sur son personnage principal.
Ce sera mercredi pour nos Josiane, pour toutes et tous les autres Josiane qu'on adore aussi. Ce sera vendredi. Il sera notamment question de Ténia géant sur la plage. Mais ce sera vendredi. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Bye les amis et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.